Vous écoutez, on lit pour vous.
Lutter contre l'intimidation en français. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, publié le 3 décembre 2025 dans Le Franco. L'organisme québécois Ensemble, pour le respect de la diversité, était de passage à Edmonton cette semaine à l'invitation du Carrefour du savoir pour entrepreneuriat 2ELGBTQ1+, pour aborder l'inclusion et le respect en milieu scolaire, à un moment où les cas d'intimidation et de discrimination semblent en hausse partout au pays. Citation. L'objectif, c'était vraiment d'établir un premier contact, rencontrer les organismes communautaires et le réseau scolaire pour créer des liens. On aimerait offrir nos ateliers en Alberta dans les écoles francophones, explique le directeur général Raphaël Provost. Chaque année, l'organisme rejoint plus de 36 000 jeunes au Canada grâce à ses ateliers de sensibilisation. Et d'après les observations de M. Provost, une haine décomplexée semble gagner du terrain. Citation, « C'est généralisé. On observe une montée des propos contre les personnes LGBTQ+, mais aussi une hausse du racisme et même du sexisme en raison des mouvements masculinistes », note-t-il, fin de citation. Pour freiner ces courants et prévenir leur propagation, la prévention en milieu scolaire est essentielle, insiste-t-il. Mais l'accès à des programmes en français demeure limité en contexte minoritaire. Citation, « Nous, on peut offrir ces services. On sait que les besoins sont importants et qu'il y a vraiment un manque de ressources », dit-il, fin de citation. C'est généralisé. On observe une montée des propos contre les personnes LGBTQ+, mais aussi une hausse du racisme et même du sexisme en raison des mouvements masculinistes. En exergue, c'est généralisé. On observe une montée des propos contre les personnes LGBTQ+, mais aussi une hausse du racisme et même du sexisme en raison des mouvements masculinistes. Raphaël Provost. En Alberta, Dare to Care propose déjà ce type d'intervention dans les écoles, en présentiel comme en virtuel. Toutefois, l'organisme n'offre pas encore de service en français, précise son directeur général Mathieu Constantin, lui-même francophone. Citation, « Nous sommes justement en train d'évaluer de traduire l'ensemble de nos programmes qui sont actuellement offerts uniquement en anglais. Nous venons d'embaucher une autre personne qui parle français pour nous aider dans cette démarche afin de pouvoir desservir les écoles francophones partout au pays. Ce ne sera pas prêt demain matin, mais la traduction de nos programmes fait partie de nos priorités », souligne-t-il, fin de citation. Il estime lui aussi que les cas d'intimidation, surtout ceux de cyber-intimidation, sont en hausse dans la province. Le phénomène de sextorsion, où une personne menace de diffuser des images intimes, est aussi en augmentation. Citation, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes apprennent maintenant des comportements en ligne et les reproduisent. Leur influence ne sont plus juste de la maison, mais de tout ce qu'ils voient sur Instagram, Snapchat et TikTok, explique-t-il, fin de citation. Ce qu'on remarque, c'est que les jeunes apprennent maintenant des comportements en ligne et les reproduisent. Mathieu Constantin. C'était un exergue. Répondre à une intimidation qui se transforme. Dans son approche, Dare to Care mise sur le développement des habiletés de la majorité bienveillante, ces élèves témoins d'actes d'intimidation qui restent souvent silencieux. Citation, dans 80 à 85% des cas, l'intimidateur agit devant quelqu'un. Il faut mobiliser celles et ceux qui n'interviennent pas, leur donner confiance pour qu'ils prennent la parole. Ce sont eux qui ont le plus grand pouvoir. Et ça passe par la prévention. L'intervention au cas par cas ne change pas durablement les comportements, explique Mathieu Constantin, fin de citation. L'organisme Ensemble pour le respect de la diversité adopte une approche similaire. Selon Raphaël Provost, la meilleure méthode d'intervention consiste à laisser les jeunes passer à l'action eux-mêmes pour lutter contre l'intimidation. Citation, on met en place dans les écoles et les milieux jeunesse des comités par et pour les jeunes. Ça a un immense impact, partage-t-il, fin de citation. Ces comités mènent des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, organisent des collectes de fonds et réalisent des capsules éducatives sur divers sujets, dont les micro-agressions. Cette volonté de responsabiliser les témoins et d'impliquer les jeunes rejoint les constats des chercheurs qui observent de près les tendances en matière d'intimidation au pays. Dienera Exner-Cortens, professeur agrégé à l'Université de Calgary et co-directrice scientifique de PREVNET, P-R-E-V-N-E-T, organisme national voué à la prévention de la violence interpersonnelle chez les jeunes, insiste sur le fait que l'intimidation est d'abord un problème relationnel. Citation, on ne peut pas se concentrer seulement sur l'enfant qui est intimidé ou sur celui qui intimide. Dans la grande majorité des cas, d'autres jeunes sont témoins et il faut les outiller pour qu'ils se sentent capables d'intervenir et de dire que ce n'est pas acceptable, explique-t-elle, fin de citation. Un exergue. On ne peut pas se concentrer seulement sur l'enfant qui est intimidé ou celui qui intimide. Dienera Exner. Activer la majorité silencieuse, selon elle, la prévention passe d'abord par l'apprentissage de compétences sociales. La gestion des conflits, l'empathie et la bienveillance au primaire, puis une réflexion plus poussée au secondaire sur les dynamiques d'intimidation, les identités ciblées et la manière de devenir des défenseurs plutôt que des témoins passifs. Mais comme l'intimidation repose sur un rapport de pouvoir, les adultes doivent eux aussi être prêts à intervenir. Les enseignants peuvent, d'ailleurs, agir de différentes façons pour protéger les élèves vulnérables. Citation, par exemple, ils devraient éviter de laisser les élèves former eux-mêmes leur groupe. Dès qu'on laisse les jeunes choisir, certains se retrouvent exclus. Fin de citation. Si les écoles et les organismes jouent un rôle essentiel, Mme Exner-Cortens rappelle aussi que la prévention ne peut pas reposer uniquement sur le milieu scolaire. Citation, les interventions en milieu scolaire sont essentielles, mais ce ne peut pas être la seule solution. On a aussi besoin d'initiatives dans le système de santé et dans les communautés, parce que certains jeunes échappent complètement au cadre scolaire. Fin de citation. La professeure Exner-Cortens rappelle que cette vigilance est d'autant plus nécessaire que le climat social actuel risque d'exposer davantage certains élèves. Citation, je suis vraiment inquiète pour les jeunes trans. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient chez les adultes. Si on leur envoie le message que ces jeunes-là ont quelque chose de pas normal, ils vont intégrer ça et les cibler, conclut-elle, fin de citation. La semaine de sensibilisation à l'intimidation se déroulait du 17 au 21 novembre 2025. C'était « Lutter contre l'intimidation » en français, un texte de Gabriel Audet-Michaud, publié le 3 décembre 2025 dans Le Franco.
Les fugues, encore en hausse, un dossier d'Ariane Lacourcière, paru le 8 décembre 2025, dans la presse. Les fugues sont en hausse dans les centres de réadaptation jeunesse du Québec pour la 5e année consécutive. La mère d'un adolescent hébergé dans les Laurentides, fugueur à répétition, déplore que trop peu soit fait pour protéger son enfant. Mais la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, réplique qu'un encadrement trop sévère n'est pas la solution. C'est la petite école de l'itinérance hébergée en centre de réadaptation jeunesse depuis près d'un an à Sainte-Thérèse, le fils de 17 ans de Mélanie, prénom fictif, multiplie les fugues. Pendant ses nuits à l'extérieur, le jeune homme flâne dans des parcs, erre de dépanneur en dépanneur ou dort près de guichets automatiques. C'est la petite école de l'itinérance, déplore sa mère. Elle dénonce la faiblesse des mesures prises par le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, CRJDA, pour mettre un terme aux échappées de son enfant et lui apporter toute l'aide dont il a besoin. Il est sous la protection de la jeunesse, mais on ne le protège pas, sous prétexte de respecter ses droits et libertés, dénonce Mélanie. Elle souligne que les gouvernements martèlent sur toutes les tribunes qu'il faut agir pour endiguer la crise de l'itinérance. On parle de construire plus de logements, mais on ne pense jamais à s'attaquer à la source du problème, dit-elle. Or, depuis 5 ans, les fugues sont en constante augmentation dans les CRJDA, selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S. 2020-2021, 874. 2021-2022, 973. 2022-2023, 1294. 2023-2024, 1450. 2024-2025, 1505. Et la tendance se poursuit en 2025-2026. J'ai juste les données pour la moitié de l'année. Mais je vois que si la tendance se maintient, on va dépasser légèrement 2024-2025, confirme la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill. Environ 75% des jeunes fugueurs reviennent en CRJDA dans les 24 premières heures. Ce n'est pas pour eux que je m'inquiète. C'est plus pour les enfants qui se mettent en danger, affirme Mme Hill. Des données obtenues par la presse en vertu de la loi sur l'accès à l'information montrent que les fugues sont en forte hausse dans plusieurs régions, dont la Naudière, surtout au campus de Joliette, où 155 cas ont été recensés en 2025. Et l'année n'est pas encore terminée. Le CIS de la Naudière explique la situation, notamment par la présence de jeunes avec une dynamique comportementale associée à la fugue. Plusieurs mesures ont été mises en place pour corriger la situation, dont des plans d'intervention individualisés. Pour les 6 premiers mois de l'année, le CIS de Chaudière-Appalaches a quant à lui enregistré 437 fugues contre 309 l'an passé. La relationniste du CIS, Dominique Lessard, affirme que cette hausse s'explique notamment par un phénomène d'effet de groupe, particulièrement durant la période estivale. Certains fugueurs répétitifs font aussi augmenter les statistiques. Au CIS de l'Outaouais, le nombre de fugues en CRJDA est en augmentation depuis 2020, entre autres à cause de la hausse progressive du nombre de jeunes hébergés, indique l'établissement. Dans les unités occupées à plus de 100%, les intervenants ont moins de temps pour des approches personnalisées avec chacun des jeunes, ajoute le CIS de l'Outaouais. Une adolescence difficile. Adopté en bas âge d'un pays d'Amérique du Sud, le fils de Mélanie, Lucas, prénom fictif, a connu un début de vie difficile. Il a fait plusieurs familles d'accueil avant son arrivée ici, dit sa mère. À 4 ans, Lucas ne parlait pas. Il ne savait pas manger, ni courir. Malgré un trouble de l'attachement, une légère déficience intellectuelle et un trouble de l'opposition, l'enfance de Lucas au Québec s'est déroulée plutôt normalement, dit Mélanie. Celle-ci nous parle d'un enfant charmant, débrouillard, et qui a un sens de l'orientation hors du commun. Mais à l'adolescence, tout bascule. Lucas ne respecte plus du tout l'autorité. À la maison, la situation devient tendue. Il fait parfois des crises d'une violence telle que ses parents ont peur. Au bout du rouleau, Mélanie se résigne à confier son fils au CRJDA de Sainte-Thérèse en septembre 2024. À partir de ce moment, on a mis le doigt dans l'engrenage, affirme-t-elle. Au départ, Lucas ne fugue pas. Ça a commencé au printemps 2025, raconte Mélanie. Son fils a alors 16 ans. Ouvert en décembre 2024, le CRJDA de Sainte-Thérèse est l'un des rares qui ont été construits à neuf dans la province. Mais depuis l'ouverture, les fugues s'y multiplient. On s'y attendait, déclare la directrice de la protection de la jeunesse des Laurentides, Marie-Noëlle Granger. Notamment parce que le centre est en zone urbaine et qu'il ne compte que des unités ouvertes. Les enfants peuvent sortir s'ils le demandent, s'ils n'ont pas de mesures d'empêchement, affirme Mme Granger, qui note que, dans la quarantaine de fugues cette année, plusieurs sont liées à un noyau dur. Les premières fugues de Lucas au printemps ont été de courte durée. Mais au fil des semaines, elles se sont prolongées et multipliées. Il se développe une certaine expertise là-dedans. Il devient meilleur. Les fugues sont de plus en plus longues. Jusqu'à la première nuit entière, en juillet, relate Mélanie. Durant ces nuits, Lucas va parfois chez des amis, sinon au Tim Hortons, dans des dépanneurs ou près de guichets automatiques. Il apprend à survivre dans la rue, affirme sa mère. Rencontrée le 17 novembre, Mélanie affirme que son fils a fugué à 3 reprises dans les 7 derniers jours. Dans la semaine précédente, il avait fugué à 4 reprises. Chaque fois, les parents vivent un stress énorme. « Je dors peu ou pas quand il fugue, » dit la mère. Quand Mélanie lui demande pourquoi il fugue, Lucas répond qu'il n'est plus capable du centre jeunesse et des règles. Elle déplore qu'à chaque fugue, son fils se mette en danger, mais rien n'est fait pour l'en empêcher. Vous écoutez « Les fugues encore en hausse », un dossier d'Ariane Lacourcière paru le 8 décembre 2025 dans la presse. Respecter les droits et libertés. Madame Granger convient que les parents peuvent avoir l'impression que tout est permis en CRJDA, mais elle explique qu'il est primordial de respecter les droits et libertés des jeunes. Dans certains cas, des mesures d'empêchement de fugue peuvent être imposées. Mais pour ce faire, l'adolescent doit se mettre en danger, comme se diriger vers un réseau de proxénètes, où il doit représenter un danger pour la collectivité. Seulement 3 des 90 jeunes hébergés au CRJDA de Sainte-Thérèse font actuellement l'objet de telles mesures. Lucas n'en fait pas actuellement partie. Il consomme quand il fugue. Il manque de jugement. Il peut même voler. Ce n'est pas assez pour établir qu'il se met en danger, déplore la mère de Lucas. Mélanie estime que les critères pour imposer ou non des mesures d'empêchement de fugue sont flous et fluctuants. Madame Granger explique que garder de force les enfants dans les CRJDA peut avoir un impact encore plus important sur eux que de les laisser fuguer. Leslie Hill est consciente que les parents s'attendent à la sécurité maximale en CRJDA. Mais honnêtement, enfermer, ce n'est pas la bonne façon de faire. Je comprends que ça a l'air plus sécuritaire. Mais quand ils sortent de là, ces jeunes nous disent « Vous avez détruit ma vie ». D'ici quelques mois, Lucas sera majeur. Sa mère craint beaucoup ce qui s'en vient. Quand elle lui demande ce qu'il veut faire après son passage au centre jeunesse, Lucas répond « Survivre ». « Mon mari et moi, on est restés sidérés », dit-elle. « C'est maintenant qu'il faut intervenir. Ça vaudrait la peine d'essayer avant qu'il ne se rende là. » En savoir plus, source, étude sur le devenir des jeunes placés au Québec, 33% pourcentage des jeunes sortant d'un placement à la DPJ qui vont vivre au moins un épisode d'itinérance avant l'âge de 21 ans. De milieux trop restrictifs à trop libertaires? La directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, reconnaît que la hausse des fugues dans les centres de réadaptation jeunesse du Québec peut être due en partie au fait que, depuis son arrivée en poste, elle a donné un solide coup de barre et a demandé de diminuer le recours aux mesures restreignant les libertés. C'est possible qu'on utilise un peu moins les mesures restrictives, ce qui fait que les jeunes prennent la poudre d'escampette plus facilement, dit-elle. Madame Hill affirme que le sujet des fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, CRJDA, est complexe et multifactoriel. Mais pour elle, il faut éviter le plus possible la répression, quitte à ce que des fugues surviennent. On peut enfermer tout le monde, et tout le monde va être physiquement en sécurité. Mais psychologiquement, ils vont être détruits, assure Leslie Hill. Certains jeunes qui ont été maintenus en CRJDA pendant des années sont incapables d'intégrer un quotidien normal une fois adultes. Pourquoi les fugues? Professeur agrégé au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, Sophie Couture s'intéresse à la question des fugues en CRJDA depuis 10 ans. Elle explique que plusieurs raisons peuvent amener un jeune à fuguer. Essentiellement, on va fuguer de ou fuguer vers, dit-elle. Par exemple, certains veulent partir parce qu'ils sont en chicane avec un autre adolescent hébergé ou en opposition avec leur éducateur. D'autres veulent juste répondre à des besoins développementaux normaux, comme aller voir leurs amis ou leur fratrie. Plusieurs ont vécu des expériences traumatiques, rappelle Madame Couture. Leur bagage de vie fait qu'ils sont souvent plus facilement irrités par la surstimulation, dit-elle. Et quand ils sont mis dans des unités de vie bondées, où les éducateurs ne sont pas toujours les mêmes, ça peut être plus difficile. Membre du conseil d'administration de l'organisme En Marge 12-17, qui vient entre autres en aidé aux jeunes fugueurs, Audrey Paré-Fortin explique qu'il y a autant de raisons de fuguer qu'il y a de fugueurs. Même si elle n'a jamais été hébergée en centre de réadaptation jeunesse, la femme de 27 ans a côtoyé la DPJ et a fugué à quelques reprises. Des fois, c'était pour essayer de trouver du réconfort, témoigne-t-elle. D'autres fois, pour prendre un pas de recul sur ma situation, parce que je n'étais pas bien. Lors d'une fugue, elle a été dirigée vers En Marge 12-17, qui est devenu son organisme pilier. Je ne me suis pas mise en danger, et ma fugue m'a permis de vivre par moi-même et de me construire, dit-elle. Gérer le risque n'est pas facile. représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, dans les Laurentides, Nariève Meilleur estime toutefois qu'on est passé d'un extrême à l'autre en CRJDA, soit de milieu trop restrictif à trop libertaire. C'est bien qu'aujourd'hui, on est très frileux à accorder des mesures d'empêchement de fugue. Nos intervenants sont mal à l'aise. On est censé protéger les jeunes. Mais avec la nouvelle approche, on a l'impression de les mettre plus à risque, estime Marie-Ève Meilleur. Selon moi, n'importe quel enfant qui fugue se met à risque, ajoute le responsable national du dossier de la jeunesse de l'APTS. Sébastien Pitre, qui souhaite lui aussi qu'on revienne au juste milieu entre un monde de trop d'interventions et un monde de liberté totale, en CRJDA. Sophie Couture reconnaît que pour les intervenants, gérer le risque n'est pas facile. Mais elle souligne qu'une minorité des jeunes se met à risque en fuguant. Madame Couture affirme que des études ont montré que les mesures restrictives de liberté apportent beaucoup de détresse chez les jeunes. Elle estime que pour prévenir les fugues, mieux vaut offrir des milieux stimulants. Pour Audrey Paré-Fortin, il est aussi important de faire de la prévention afin d'informer les jeunes des dangers en cas de fugue, comme le risque d'être attiré par des proxénètes. Mais clairement, plus tu enfermes les jeunes, plus tu vas avoir de fugues, estime-t-elle. Leslie Hill assure ne jamais avoir dit de ne pas appliquer les mesures d'empêchement. Pour elle, chaque fugue doit être analysée pour déterminer si un jeune se met en danger et si des restrictions doivent être imposées. Mon attente envers le réseau, c'est de faire preuve d'un jugement professionnel, pas d'automatisme, dit-elle. C'est vrai que mes directives dérangent mon réseau présentement, reconnaît Leslie Hill. Mes intervenants travaillent fort. Mais je pense que le balancier va revenir par lui-même, parce que c'est le gros bon sens qui est demandé. C'était « Les fugues encore en hausse », un dossier d'Ariane Lacourcière, paru le 8 décembre 2025 dans la presse.